la fontaine, le fleuve d'eau vive. Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. Tu es le feu et la charité, tu es l'onction de la grâce, c'est toi qui nous fais passer, proclamer.
Que le Seigneur vous donne sa paix à tous et à chacun pour bien accueillir la parole. Là où deux ou trois sont réunis, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur est présent. Fermons nos yeux et prenons conscience qu'il est bien présent au milieu de nous par la foi. Seigneur, mon Dieu, Père Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, Fils unique du Père, Esprit Saint de force et de lumière, Esprit de vérité, viens fortifier nos cœurs et viens montrer toute la puissance de ton amour à travers chacun de tes servantes et de tes serviteurs. Et mets dans ma bouche les paroles qu'il faut pour que tous ensemble, nous devenions des véritables témoins. Non pas que nous ne le sommes pas, mais que nous le devenions davantage. Des gens remplis du feu de ton amour. Viens mettre tes paroles sur mes lèvres, ton amour en mon cœur, l'intelligence pour bien en parler, et que tous soient réjouis et chantent tes louanges à chaque instant du jour et même de la nuit, et qu'ils puissent, ô mon Dieu, te bénir à travers toutes les sortes de situations qu'ils peuvent vivre, les joies comme les peines, les épreuves comme les réussites. Et Vierge Marie, daigne présenter ma prière à ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Amen.
Avant de vous parler du corps du Christ et de ses membres, parce que ça va être l'idée de fond, vous savez, en parlant de l'unité et diversité des charismes. Chacun de nous, regardez-vous bien, vous avez une tête. Vous avez un nez, vous avez des oreilles, vous avez des mains, vous avez des jambes, des pieds. C'est unique. Et vous remarquerez que chaque membre a vraiment une fonction. Pour que ça soit normal et naturel, chacun a sa fonction. Vous n'avez pas vu personne avec un nez sur la tête, mais bien à sa place où il doit être. C'est pareil pour l'oreille, mais je m'en servirai tout à l'heure. Je me servirai de la parole de Dieu. Nous sommes réunis ensemble pour l'entendre, cette parole. Ce n'est pas une parole d'homme, c'est une parole de Dieu qui a la puissance de nous transformer. Ça prend la foi pour accepter la parole de Dieu. Je ne dis pas le sentiment. Je ne dis pas de le comprendre, je dis que ça prend une adhésion, un assentiment de tout notre être pour croire à la parole. Vous ne croyez pas à la parole parce que vous avez compris les mathématiques ou que vous avez réussi à analyser la parole du début à la fin, de peser le pour et le contre, pour dire, ben voici, j'y crois. Vous seriez bien embêté quand vous liriez dans Saint Matthieu le texte où notre Seigneur vient nous dire, enlève la poutre de ton œil et tu verras clair pour enlever la paille dans l'œil de ton frère. Vous seriez pas capable de comprendre ça avec l'intelligence. C'est la foi qui vient nous dire quelque chose à travers une phrase très mystérieuse, mais qui touche au discernement. Enlever la poutre de son œil. Naturellement, notre Seigneur nous parle de l'œil du cœur. C'est pas l'œil physique. Quoique, il nous faut apprendre à discerner quand on voit ce qu'on appelle le discernement qui s'acquiert par la pratique, par l'expérience. Puis, il y a le don de discerner qui s'acquiert par la grâce du Saint-Esprit, qui est un don. Discerner, c'est un don qui fait partie du corps du Christ que nous formons. Tous ne discernent pas exactement avec le don de discerner. Tous peuvent discerner par la pratique et l'expérience de la vie. Mais pas tous peuvent le faire avec ce qu'on appelle le don de l'Esprit-Saint. C'est pour ça que quand on parle d'un corps avec ses membres, chaque membre a sa fonction. Et vous ne verrez pas le nez vouloir prendre la place d'une jambe. Pour pas trop se décourager, dans la vie de l'esprit, il y a toutes sortes de dons. Et selon ce que Dieu a voulu pour les membres dans le corps que nous formons. Mais pour sa gloire et la sanctification de tout le corps. C'est pour ça que c'est inégal. Chacun a son don selon ce que le Seigneur a voulu. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller se décourager quand on dit « Mais moi, écoute donc, je n'ai pas de don. Hein? Moi, je n'ai rien, moi. Puis toutes les autres ont tout. » Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça, vous savez? La petite compétition, puis tout. Non. Si nous comprenons le grand mystère du corps du Christ que nous formons, il faut une tête à un corps. Et il y faut les membres. Mais tous les membres concourent au bien de l'ensemble du corps. Ce qui doit arriver dans un groupe de prière, c'est vraiment animé par l'Esprit-Saint et son amour brûlant, de coopérer à s'entraider, à s'aimer, à édifier, à construire le corps du Christ que nous formons. Pour arriver à cette plénitude du Christ total, Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais je vais y revenir. Déjà, je vous ai lancé quelques graines de semences. Je veux d'abord vous dire que Saint Paul croyait à la rencontre qu'il a vécue avec Jésus-Christ. C'est pourquoi un jour il a dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Et à son fils Timothée, qu'il appelait son fils, il lui avait dit « Proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, réfute, menace, oh là là, exhorte avec une patience inlassable. Et le souci d'instruire. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais au contraire, au gré de leur passion et l'oreille les démangeant, ils se donneront des maîtres en quantité et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Pour toi, sois prudent en tout. supporte l'épreuve. Fais œuvre de prédication de l'Évangile, acquitte-toi à la perfection de ton ministère. Vous avez dans ce paragraphe un saint Paul plein de feu qui croit à la parole, qui a la forme de l'épée tranchante. Parce qu'aujourd'hui, on voudrait, et même chez moi, me faire des pressions pour me dire qu'il faudrait atténuer la prédication de la parole, pas trop être sévère, tourner les coins ronds, et puis, vous savez, l'Église, faut pas tout prendre. Ça va jusque-là. Et alors, on risque de nous reprocher d'avoir le glaive dans la bouche. Mais cette parole, elle est là pour nous transformer. Elle est là pour nous convertir. Elle est là pour que Dieu soit glorifié à travers tous. Et les dons de l'Esprit Saint concourent à manifester la gloire de Dieu quand nous le faisons avec amour et dans la vérité. Parce que beaucoup désirent avoir des dons, mais ils en oublient l'exercice de la charité. Et saint Paul disait, entre autres, de rechercher la charité, même s'il ajoute aspirer aussi aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Cette insistance de la charité, c'est que dans le corps que nous formons, c'est l'Esprit Saint agissant par son amour. Il y a un texte de saint Paul qui dit « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Le Saint-Esprit qui est une personne. Tout l'exercice des dons doit être animé par l'esprit d'amour et de charité. Et où il y a la charité, il ne peut pas y avoir de compétition, ni de jalousie, ni toutes ces choses qui empêchent la gloire de Dieu de se manifester et sa puissance. Mais dans le corps aussi, vous remarquerez que les membres sont soumis les uns aux autres. Regardez-vous personnellement comme corps, comme personne, puis il n'y a pas un seul pied ici qui fait la moue à la tête. Si vous regardez bien ça, là, Dieu a fait le corps dans tout son entier et tout coopère à l'harmonie, à l'unité du corps et à sa multiplicité dans ses manifestations et ses biens. C'est la même chose dans l'exercice des charismes. Il s'agit de demander au Seigneur cette grande grâce. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse comme membre de ce corps pour sa plus grande gloire? Et non pas pour mon intérêt personnel ou pour ma joie personnelle. Bien sûr que on trouve une très grande joie à voir quelqu'un qui se lève puis il dit « Le Seigneur vient de me guérir », ben tout le monde tape des mains puis rend gloire à Dieu d'une pareille chose. Mais personne ne l'a fait pour son compte personnel, mais bien pour la gloire de Dieu. Pour qu'un corps fonctionne normalement selon le plan de Dieu, cela suppose de bannir en nous ce qui s'oppose à l'amour, l'amour fraternel. Parce que vous savez comme moi, parce que tous nous sommes marqués par le péché d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas facile parfois les relations humaines avec les autres. Il faut faire des efforts. C'est tout le domaine du combat. Et c'est pour ça que saint Paul est venu dire qu'il est important de se revêtir d'une armure. Et entre autres, de se nourrir de la parole de Dieu, d'en être imbibé, pour être conduit par la parole à travers tous nos actes. Quand saint Paul est venu parler d'aspirer aux dons spirituels, c'est loin d'être un péché. Il invite les chrétiens à aspirer aux dons spirituels parce que cela aide à construire le corps du Christ qu'est l'Église. Il ne vient pas nous dire, ben, aspirez aux dons spirituels puis pratiquez pas la vertu. Il faut pratiquer la vertu si nous voulons que les dons spirituels éclatent. Et entre autres, une vertu qui est essentielle et que beaucoup ont peur d'entendre même le mot, la soumission. C'est une vertu, la soumission, qui relève de l'humilité. Mais pensez encore au corps que nous formons, et le corps personnel de chacun, puis vous remarquerez que vous n'avez aucun de vos membres qui proteste contre d'autres membres dans votre propre corps, mais ils se soumettent les uns aux autres, les pieds, les mains. Tout est soumis pour former une unité et former une harmonie où resplendit le corps dans tout son ensemble. Et si je vous ai lu tout à l'heure qu'après avoir mentionné qu'il fallait aspirer aux dons spirituels, saint Paul est venu insister pour dire surtout à celui de prophétie. La prophétie, ça relève de la parole, mais une parole qui est faite sous le souffle du Saint-Esprit. Chacun des dons doit être fait sous le souffle du Saint-Esprit. Comment découvrir que c'est le souffle du Saint-Esprit qui m'anime et qui me fait parler, ou qui me fait me taire? Mais c'est curieux comment saint Paul a insisté fortement sur le don de la prophétie comparativement aux autres dons. Parce que la prophétie relève de la parole, et ceux qui l'entendent, c'est de cette manière que grandit la foi. Lui-même m'a dit, la foi vient par l'audition. Et pour entendre la parole, cela prend un prédicateur, un envoyé. Cette foi grandit par l'audition. Alors, en assemblée de groupe de prière, lorsqu'au fond de notre cœur, nous sommes comme poussés à dire une parole, sans aucune gêne, de pouvoir la dire pour l'édification de ceux qui entendent. Le problème qui se présente souvent dans un groupe de prière, c'est la gêne, c'est la peur qu'on soit mal vu ou pas bien compris. Mais quand l'esprit fait comprendre au-dedans, par une espèce de force intérieure et de certitude, qu'il veut que l'on parle et que cela n'est pas mu par l'idée qu'on veut se faire connaître puis qu'on veut se faire voir. Quand c'est l'idée que c'est plus fort que moi qu'on veut que Dieu parle à travers moi, il y a des chances que cette parole va servir à édifier ceux qui entendent. Mais comme on est tous différents ici, le Seigneur se sert d'un langage avec un vocabulaire qui peut être différent, mais qui va faire comprendre la même chose. On aura certainement l'occasion d'entendre des paroles de cette sorte. Ça peut arriver aussi que des paroles m'arrivent comme une forme de prière, et ça fait partie de la prophétie. Tout ce qui conduit à nourrir la paix de l'âme et la joie de l'Esprit-Saint dans nos cœurs, c'est un signe qu'on peut librement laisser son cœur aller à parler. Je vous dirais que c'est pas facile de parler de l'agir des dons. Je le fais à travers ma façon de parler. Je vous dis que ce qui est très important, si nous voulons servir d'instrument à la parole, qu'on supplie, même avec larmes, le Seigneur, l'Esprit d'amour, qu'il prenne possession de notre cœur et de nos lèvres, pour le bien de tous ceux qui nous entourent et qui entendent. Et cela va aussi loin que quand on est avec quelques personnes puis qu'on a à parler. Celui qui prophétise parle aux hommes. Il édifie, exhorte, console. Et là arrive la belle petite phrase. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. L'édification ici vient nous dire que c'est la foi, l'espérance et la charité qui se construit en nous. S'édifie lui-même, c'est que ça a un rapport à lui personnellement. Celui qui prophétise édifie l'Assemblée. C'est vraiment pour le bien commun, pour toute l'Assemblée. Saint Paul disait, lorsque vous vous assemblez, que vous vous réunissez, chacun peut avoir un cantique. Vous voyez, un cantique, un enseignement dans l'Assemblée, une révélation, un discours en langue, une interprétation. Que tout se passe de manière à édifier. Parce qu'il dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ce n'est pas facile de parler de cela, parce que la question du don des langues, c'est vraiment un don de l'esprit, qui est un don de prière pour la personne. C'est pour ça que saint Paul va dire quelque part, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne, en effet, ne le comprend. Il dit en esprit des choses mystérieuses. Je désire que vous parliez tous en langue, mais plus encore que vous prophétisiez. Car celui qui prophétise l'emporte sur celui qui parle en langue. Et la raison est toujours la même, c'est de construire la foi dans les cœurs, l'espérance et la charité de ceux qui entendent. C'est pour ça que saint Paul avait dit que la foi vient par l'audition. Et c'est pour cela qu'il veut que notre parole soit profitable à toute l'assemblée. Donc, de prier pour que le Seigneur se serve de nous comme instrument par sa parole pour toucher les cœurs et les faire grandir dans la foi, dans l'espérance et la charité. Tout est possible, mais dans l'amour de Dieu et du prochain. C'est pour ça que dans le corps, il y a une circulation qui se fait. Pour le corps physique, on va dire que c'est le sang. Mais Pie XII disait que dans le corps mystique, dans le corps du Christ, c'est l'Esprit Saint qui circule. L'amour de Dieu qui se trouve à circuler à travers le corps. Et il faut que tous les membres agissent avec cette charité. Et c'est ça qui se produit dans un corps et qui vont respecter, chaque membre va être respecté de l'autre. Ce que depuis le début je vous parle, c'est pour vous faire saisir une chose qui est bien importante. Sans la charité, j'aurais beau faire des miracles, avoir le don de guérison, chasser les démons, faire brûler mon corps par amour de Dieu, donner tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien, dit saint Paul. Comment l'exercice des dons doit venir comme complément à une vraie charité exercée entre les membres? Parce que si notre désir est très grand d'exercer les charismes, notre désir de pratiquer la charité doit être au summum dans notre cœur. Et cela suppose, pour exercer la charité, l'acceptation de chacun des membres avec leurs différences, et de prendre le temps de les écouter, ce qu'on appelle la soumission de notre cœur aux autres qui nous parlent. Cette soumission, elle est tout à fait naturelle dans le corps que nous avons. C'est normal, c'est même nécessaire, c'est primordial, c'est essentiel. Ce que saint Paul a voulu nous dire, c'est que c'est la même chose dans le corps du Christ que nous formons et le corps du Christ qu'est l'Église. Ce qui suppose aussi l'acceptation de la parole de Dieu dans nos vies et l'acceptation de l'enseignement de l'Église. On ne peut pas pratiquer les charismes en dehors de l'enseignement de l'Église sans se cogner le nez. Il faut qu'il y ait une correspondance, une soumission de notre cœur à l'enseignement de l'Église. Parce que dans l'Église, il y a plusieurs membres, diversité de membres, c'est ce que saint Paul vient nous dire. Dieu a placé les membres et chacun d'eux dans le corps selon qu'il l'a voulu. C'est dans son plan. Si le tout était un seul membre, où serait le corps? Mais il y a plusieurs membres et cependant un seul corps. L'œil ne peut donc dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi. » ni la tête à son tour dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous. » Bien plus, les membres du corps que nous tenons pour les plus faibles sont nécessaires. Dieu a disposé le corps de manière à donner davantage d'honneur à ce qui en manque, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps. Mais qu'au contraire, les membres se témoignent une mutuelle sollicitude. Or, vous êtes le corps du Christ, et membres chacun pour sa part. Et là, saint Paul vient nous dire, Dieu établit dans son Église, premièrement comme apôtre, deuxièmement comme prophète, puis docteur, puis les miracles, le don de guérir, d'assister, de gouverner, la diversité de langues. Et là, il pose la question, tous sont-ils apôtres? On est bien d'accord que tous ne sont pas apôtres au sens où Paul en parle. Hein? Tous ne sont pas évêques. Il y a des évêques. Dans les diocèses, c'est pareil. Il y a des curés. Alors, c'est pareil dans les familles. Je vous dirais qu'il y a une tête dans une famille. Comme dans un groupe, il y a une tête aussi. Le respect de la tête, saint Paul en parle fréquemment, il appelle ça sous le mot d'autorité. Mais il faut qu'on arrête d'avoir peur de ces mots et d'y voir une réalité spirituelle que le Seigneur est venu nous dire. À travers toute la composition du corps, il y a l'humilité et la soumission pour que tout concourt au bien pour ceux qui aiment. Je vous ai parlé dans le début du discernement. L'Esprit Saint vit en nous. Il est la source d'eau vive. Par lui circule la charité en nos cœurs. Cet esprit, il scrute tout, jusqu'aux profondeurs divines. Vous rappelant cette présence du Saint-Esprit en nous, qui est une personne. Saint Paul dit, cet esprit scrute jusqu'aux profondeurs divines. Nul ne connaît les secrets de Dieu sinon l'Esprit de Dieu. Or, saint Paul vient dire, nous l'avons, nous, l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les dons que Dieu nous a faits. Il dit, l'homme psychique. Je veux expliquer l'homme psychique, qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est pas l'homme de foi. C'est pas l'homme qui a cet assentiment de la foi, de croire Dieu et sa parole. C'est l'homme qu'il faut qu'il analyse tout, qu'il pèse tout selon ses critères à lui, et non pas les critères de la parole de Dieu. Cet homme psychique n'accueille pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. On voit dans les commentaires des gens, des psychologues qui vont dire « Non, c'est pas vrai, c'est des gens qui ont forgé ça, qui pensent que c'est miraculeux, mais ça l'est pas du tout, on peut tout expliquer par des façons humaines. » Alors, vous avez de ces gens-là. Ou encore, parce que on entend parler de la parole de Dieu, puis on trouve que c'est un peu fort. Mais saint Paul vient dire, c'est folie pour lui, et il ne peut le connaître, cet esprit de Dieu. mais il va parler de l'homme spirituel, qui au contraire juge de tout et ne relève lui-même du jugement de personne. Cet homme spirituel, c'est tout le monde qui est appelé à le devenir. C'est l'homme de la conversion, la femme qui se convertit, qui change son cœur, qui nettoie son cœur, qui vide le terrain de son cœur de toutes les ronces et les épines, afin que Dieu puisse agir librement en nous. C'est un rapport direct à l'exercice des dons. Dans la mesure où on apprend à se détacher, à se dépouiller, à accepter de se soumettre à ceux qui nous entourent. Quand je parle de se soumettre, en tout ce qui n'est pas péché, on ne perd rien à se soumettre. Tout ce qui n'est pas péché. Ce qui n'est pas correct, on n'a pas à se soumettre. Ce qui va contraire à la loi de Dieu, à l'enseignement de l'Église, on n'a pas à se soumettre à ça. Mais à tout ce qui peut provoquer chez nous une plus grande charité à l'égard de ceux qui nous entourent, dans l'amour du Christ, il est certain qu'on ne perd rien à se soumettre. Ce verbe « soumettre », c'est d'accueillir l'autre comme si c'était Dieu lui-même. Rappelez-vous que le Seigneur dans l'Évangile est venu dire « Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » Quand vous écoutez quelqu'un qui vous aborde, c'est comme si vous écoutiez le Seigneur qui vous parle. Et vous avez des chances de très grandes que l'Esprit-Saint vous éclaire et vous parle. Ici, je veux noter une parenthèse. Mère Teresa de Calcutta, on ne nous l'avait pas dit, mais elle l'a écrit, et face à sa canonisation, on a sorti des écrits. Et entre autres, Mère Thérèse a vraiment eu des paroles qu'on peut appeler prophétiques. Et des visions aussi, où le Seigneur a insisté pour qu'elle, de sœur de Lorette qu'elle était, qu'elle fonde les missionnaires de la charité. À la fois, elle voulait cela énormément et le désirait énormément avec les paroles qu'elle avait reçues intérieurement et qu'elle avait écrites. Et elle n'avait pas couru après ça. Puis en même temps, étant prête à se soumettre entièrement à l'archevêque, et l'archevêque le fait attendre presque un an avant d'y dire oui. Et elle a écrit plusieurs lettres pour insister auprès de l'archevêque pour qu'il se décide à prendre la bonne décision pour la fondation. Et pourtant, elle s'est soumise à l'archevêque tant que ça ne changeait pas. Mais elle disait à l'archevêque, ça presse, il y a des âmes qui se perdent, etc. Je veux juste vous montrer ici la soumission qu'elle a exercée à l'égard de l'archevêque, puis en même temps, cette soumission à la révélation qu'elle a eue intérieurement, mais qu'elle a soumise à son directeur spirituel, afin de ne pas déraper, de ne pas aller à côté et de se tromper. Dans le mouvement charismatique, il se passe toutes sortes de choses. C'est des choses spirituelles qui ne sont pas facilement détectables, humainement parlant, mais que ça prend la grâce du Saint-Esprit. Ce qu'on appelle le discernement. C'est pour ça que dans un groupe de prière, quand il y a des manifestations, l'animateur je suis persuadé que Dieu lui donne une grâce pour être capable de détecter la lumière du Saint-Esprit, pour ce qui vient de l'Esprit. Le discernement, parce que c'est une chose importante, parce que c'est quelqu'un qui se trouve à trancher. Ça vient du mot latin « discernere », qui signifie « identifier », »,« reconnaître ». Par exemple, le médecin qui porte un diagnostic identifie, reconnaît, discerne la maladie dont souffre son patient. Avec le temps, toute personne finit par discerner ce qui est bon ou mauvais pour elle-même. Et c'est ainsi qu'on mangera ou ne mangera pas tel aliment, qu'on aura reconnu bon ou nuisible pour soi, qu'on prendra tant d'heures de sommeil chaque nuit, etc. On discerne ou identifie ce qui est bon ou mauvais pour soi. Discerner signifie donc identifier ou reconnaître. Appliqué au domaine spirituel, le discernement peut être défini comme l'art ou la science par laquelle on reconnaît l'origine divine ou non. Dans un groupe charismatique, il y a toutes sortes de manifestations qui peuvent se présenter. Une parole, ou même quelqu'un qui part un chant très rapidement, ou quelqu'un qui se lève puis dit « Moi, je veux parler ». Bon, tout ça, ce sont des manifestations. Comment reconnaître l'origine divine ou non? L'orientation divine ou non de ce qui se passe, soit chez une personne ou dans un groupe, à partir des signes extérieurs ou des motions intérieures qui se passent. Quelques exemples. En voyant agir une personne, je peux savoir si elle est pressée ou non, si elle est de bonne humeur ou non, si elle est rayonnante de santé ou gravement malade. Toutes sortes de signes que j'identifie me permettent de me rendre compte de ces choses. Je sais d'expérience qu'une personne brusque n'a pas le même comportement qu'une autre qui est la bonté et la douceur même. Si l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans une vie, il agira en conformité avec ce qu'il est. La présence de l'Esprit d'amour se laissera manifester et reconnaître par un comportement qui est propre à l'amour. Si au contraire, c'est le malin qui est à l'œuvre dans une vie, il se laissera également discerner parce qu'il aura un comportement en conformité avec ce qu'il est. Le discernement spirituel ou discernement des esprits consistera donc à reconnaître, à partir des signes, quel esprit est à l'œuvre dans une vie. Jésus, Dieu fait homme, n'a pas été exempté de ce discernement. C'est ainsi qu'on le voit au désert, reconnaître et démasquer Satan qui le tente. De plus, Jésus nous invite au discernement et il nous donne le signe des fruits comme clé du discernement quand il dit « Gardez-vous des faux prophètes, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Il n'a pas dit « Faites attention, puis il ne faudrait pas que vous blessiez les faux prophètes. Hein? » Ce n'est pas ça qu'il a dit. Il faut discerner. Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre malade porter de bons fruits. La question qui vient spontanément à l'esprit est la suivante. Quels sont donc ces fruits qui nous permettront d'identifier l'action de l'Esprit-Saint ou l'action du malin? Ils sont de deux ordres, les fruits extérieurs et les fruits intérieurs. Mais ce qu'on fera, on le fera au retour tout à l'heure après la pause.